CILSFM, la voix de votre communauté.
Vous aimeriez en connaître plus sur l'histoire personnelle des grands compositeurs classiques? L'influence de la modernisation des instruments dans la musique de 1600 à aujourd'hui? Ne manquez pas Histoire classique avec Louise Alpin, diffusée 3 fois par semaine sur les ondes de CISFM.
Vous écoutez l'émission Le Débrief à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. Mon nom est Alexis Gagnon. Voici votre revue de presse internationale pour les 19 et 20 avril. Nous débutons cette revue de presse avec une nouvelle qui provient d'Europe. Brexit, le Parlement britannique s'auto-dissout. C'est une nouvelle qui paraît dans le journal Le Figaro. La Chambre des communes britannique a voté mercredi par 522 voix contre 13 en faveur des élections anticipées réclamées par la première ministre Theresa May. Ces élections se tiendront le 8 juin. Une heure et demie de débat soporifique aura suffi aux députés britanniques pour se saborder, écrit le journaliste du Figaro. Au terme d'une succession d'interventions sans panache, les députés ont accepté à une écrasante majorité le défi lancé mardi par la première ministre Theresa May de dissoudre la Chambre des communes pour organiser de nouvelles élections législatives le 8 juin prochain. Seuls 13 élus ont voté contre, tandis que 522 ont apporté leur soutien à la motion gouvernementale, une centaine d'entre eux préférant s'abstenir. Le vote des deux tiers des 650 membres de la Chambre était requis pour valider la mesure. L'Assemblée actuelle siégera jusqu'au 3 mai avant une campagne électorale express de 5 semaines. Nous restons en Europe, cette fois dans le fil de l'agence France-Presse paraît un article intitulé « Londres n'aura pas son mot à dire sur le siège des agences de l'Union européenne ». Donc vous voyez, ça concerne un petit peu le Brexit. On reste dans le sujet. Le gouvernement britannique, écrit Reuters, n'aura pas son mot à dire sur le futur emplacement des agences européennes actuellement basées à Londres, a indiqué mercredi un porte-parole de l'Union européenne. L'autorité bancaire européenne, l'ABE, et l'Agence européenne des médicaments, l'EMA, les deux institutions de l'UE siégeant dans la capitale britannique, ne feront pas partie des négociations sur le Brexit, a déclaré ce représentant de l'UE. Les agences européennes, a expliqué le porte-parole, doivent être implantés sur le territoire de l'Union européenne et la décision sur leur emplacement sera prise par les 27 pays membres restants. Ces propos contredisent une déclaration diffusée lundi par le ministère britannique dévolu au Brexit, selon laquelle la question du siège de ces agences serait à l'ordre du jour des négociations en vue du Brexit. Ça ne fait pas partie des négociations, c'est plutôt une conséquence du Brexit, a répondu mercredi le porte-parole de l'Union européenne. Dans les colonnes du Huffington Post à présent, le porte-avions américain déployé vers la Corée du Nord est parti beaucoup plus tard que ne le disait Donald Trump. Coup de bluff ou énorme confusion, demande le Huffington Post. L'armada américaine promise par le président des États-Unis Donald Trump près de la péninsule coréenne en réponse à la menace de Pyongyang n'a pas encore commencé à naviguer vers cette zone, a reconnu mardi 18 avril un responsable américain de la défense. Le 8 avril, souvenons-nous, Dave Benham, le porte-parole du commandement américain dans le Pacifique, avait pourtant annoncé qu'un porte-avions américain, le Carl Vinson, et sa flotte faisaient route vers la péninsule coréenne et vers la Corée du Nord par mesure de précaution en mentionnant la menace nucléaire nord-coréenne. Alors, cette annonce avait été interprétée comme un nouvel étalage de force du président américain Donald Trump, quelques jours seulement après l'offensive de Syrie. Le 11 avril, le chef du Pentagone, James Mattis, a déclaré que le navire était en route vers la péninsule coréenne. Et Donald Trump lui-même en a remis une couche, d'abord avec une série de tweets virulents, puis en déclarant sur la chaîne Fox Business, « Nous sommes en train d'envoyer une armada très puissante. » Le hic, c'est qu'une photo de la marine américaine prise le 15 avril a mis à mal la version des autorités américaines. Le cliché montre en effet le porte-avions dans le détroit de la Sonde qui sépare les îles indonésiennes de Java et Sumatra, donc très loin de la Corée du Nord. Alors, des faits qui contredisent les déclarations de Donald Trump, c'est dans le Huffington Post. Sous le titre, le porte-avions américain déployé vers la Corée du Nord est parti beaucoup plus tard. On se transporte dans les colonnes du journal Le Monde. Un appel au président François Hollande de la part de responsables associatifs et universitaires. Ceux-ci interpellent le président de la République et lui demandent d'abroger, avant une élection présidentielle à l'issue incertaine, entre guillemets, l'état d'urgence qui est en vigueur depuis le 14 novembre 2015 et qui a été prolongé encore jusqu'au 15 juillet 2017. Donc la France est en état d'urgence, on le sait, suite aux attentats qui ont été commis en 2015 et 2016. Donc cet appel est paru originalement dans Libération. Le Monde en fait ici le résumé. Le président de la République, écrit Le Monde, en vertu de l'article 5 de la Constitution, est chargé du fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que de la continuité de l'État. Or, depuis 500 jours, depuis le 14 novembre 2015, la France vit sous le régime de l'état d'urgence et s'installe dans une accoutumance incompatible avec une situation censée être exceptionnelle et limitée dans le temps. Dès décembre 2015, le Conseil d'État a expressément indiqué que l'état d'urgence doit demeurer temporaire. Les menaces durables ou permanentes doivent être traitées dans le cadre de l'état de droit par les instruments permanents de la lutte contre le terrorisme. Alors voilà un appel au président Hollande de la part de responsables associatifs et de 42 universitaires. Ceux-ci interpellent le président en lui demandant d'abroger l'état d'urgence le plus rapidement possible, soit avant son départ du palais présidentiel, l'Élysée, en France. On va maintenant se tourner vers le fil de l'agence Reuters. Reprise en série des évacuations des populations assiégées. Les évacuations de populations de quatre zones assiégées de Syrie ont repris mercredi, quatre jours après un attentat à la bombe contre un convoi qui a fait 126 morts, dont une soixantaine d'enfants. D'après le centre des médias du Hezbollah, la milice chiite libanaise qui soutient Bachar al-Assad, quelques 45 cars transportant 3000 personnes ont quitté les villages de Foua et Kefraya dans la région d'Ibid, encerclés par les rebelles. Le convoi a pris la direction d'Alep sous contrôle gouvernemental. Parallèlement, 11 cars ont quitté Zabadani, encerclés par les forces pro-gouvernementales près de Damas. La reprise des évacuations a également été annoncée par la télévision publique syrienne et par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le départ des populations assiégées avait été interrompu à la suite de l'attentat de samedi contre un convoi d'évacués de Foua et Kefraya qu'on a mentionné un petit peu plus tôt. On va poursuivre cette revue de presse internationale avec une nouvelle qui paraît encore une fois dans le fil de l'agence Reuters, une nouvelle qui parle du terroriste Joseph Kony. L'Ouganda réduit les moyens consacrés à la traque de Joseph Kony. L'armée ougandaise a annoncé mercredi avoir entamé le retrait de ses troupes de Centrafrique où elles avaient été déployées pour traquer les rebelles de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA, disant avoir accompli sa mission bien que le chef du mouvement insurrectionnel ougandais, Joseph Kony, soit toujours en fuite. L'Ouganda est à la tête d'une force de l'Union africaine qui cherche, avec le soutien des forces spéciales américaines, à neutraliser le chef de guerre Kony, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, la CPI, de La Haye depuis 2005. Au total, l'Ouganda a mobilisé 2500 hommes pour traquer les rebelles de Kony, redoutés notamment pour les enlèvements d'enfants qu'ils utilisaient comme soldats ou esclaves sexuels. Le plus gros contingent ougandais était déployé dans l'est de la Centrafrique. Donc l'Ouganda qui retire ses moyens consacrés à la traque de Joseph Kony, c'est dans le fil de l'agence Reuters. On se transporte à nouveau dans les colonnes du journal Figaro. Un gros astéroïde va frôler la Terre. La NASA avertit qu'un corps rocheux d'une taille inhabituelle va passer à proximité de la Terre mercredi 19 avril. Les premières observations radar montrent qu'il est deux fois plus gros que prévu avec une longueur de 1,3 km. Un gros astéroïde va donc passer à proximité de notre planète, mais sans présenter le moindre danger, selon la NASA. Bien qu'il n'y ait aucune possibilité que l'astéroïde entre en collision avec notre planète, il sera très près pour un objet spatial de cette taille, a précisé l'Agence spatiale américaine. Les premières estimations donnaient une taille d'environ 650 mètres pour cet objet, baptisé 2014 JO25, à partir de son année de découverte. Mais les premières observations observations radar avec l'immense radiotélescope d'Arecibo à Puerto Rico, ainsi qu'avec l'antenne Goldstone de la NASA. Ces observations donc ont montré que cet objet en forme de cacahuète double est en fait deux fois plus grand que prévu, avec une longueur maximale de 1,3 km. Donc en tapant astéroïde, vous allez trouver facilement cette nouvelle un peu partout dans les médias. Je vous ai lu quelques lignes de l'article que faisait paraître à ce sujet le journal Figaro. Et dans les colonnes du Wall Street Journal, à présent, on apprenait aujourd'hui que la chaîne Fox, qui est la propriété du tycoon Rupert Murdoch, se prépare à dire au revoir au chroniqueur polémiste Bill O'Reilly, qui sévissait à l'antenne de Fox depuis plusieurs années, et c'est une affaire d'harcèlement sexuel qui aura finalement eu raison de ce polémiste Bill O'Reilly. Alors, le Wall Street Journal qui annonçait un peu plus tôt aujourd'hui en exclusivité que la chaîne Fox News se préparait à congédier Bill O'Reilly. Alors, voilà qui complète vos infos de la revue de presse internationale pour les 19 et 20 avril. Restez avec nous à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. L'émission Le Débrief se poursuit dans un instant avec la revue de presse nationale. Merci d'être à l'écoute du débrief des mercredis 19 et jeudi 20 avril. Nous entamons à présent la revue de presse nationale. On commence avec une nouvelle qui paraît dans le fil de l'agence QMI. Industrie laitière, le Canada réplique au président Donald Trump. Le Canada a rapidement voulu rétablir les faits après l'attaque du président américain Donald Trump sur les producteurs de lait canadiens mardi. L'ambassadeur du Canada aux États-Unis, David McNaughton, a fait parvenir une lettre à deux gouverneurs américains mardi soir, quelques heures après un discours enflammé au Wisconsin du président Trump. Dans sa missive adressée aux gouverneurs du Wisconsin et de New York, l'ambassadeur McNaughton soutient que le Canada n'est pas responsable des déboires de l'industrie laitière au sud de sa frontière, en s'appuyant sur un rapport du département américain de l'agriculture. Le document a fait valoir l'ambassadeur montre clairement que les mauvais résultats du secteur laitier américain sont dus à une surproduction des États-Unis et dans le monde. Comme le rapport l'indique sans équivoque, le Canada ne contribue pas à cette surproduction, a insisté l'ambassadeur dans sa lettre. Les gouverneurs Scott Walker du Wisconsin et Andrew Cuomo de New York se sont récemment plaints des politiques laitières canadiennes à la Maison-Blanche. Et le président Trump, donc, cette semaine, a promis d'agir. Dans son discours de mardi, le président avait qualifié de très, très injuste les pratiques commerciales du Canada qui s'appuient sur la gestion de l'offre, ajoutant, le président a ajouté que la situation ne demeurera pas comme ça très longtemps. Alors voilà cette nouvelle qui paraît dans le fil de l'agence QMI. Industrie laitière, le Canada réplique à Donald Trump. Sinon, dans les colonnes du journal La Presse, Bombardier gagne une manche contre Metrolinx en Ontario. L'agence ontarienne de transport en commun Metrolinx a échoué dans sa tentative de faire annuler rapidement un contrat de 770 millions de dollars attribué à Bombardier en 2010. Dans une décision de 23 pages rendue mercredi, le juge Glenn Haney de la Cour supérieure de l'Ontario accorde une injonction interlocutoire interdisant à Metrolinx de mettre fin au contrat portant sur la livraison de 180 véhicules légers sur rail. L'organisme gouvernemental Metrolinx conserve néanmoins le droit de faire annuler le contrat, mais seulement au terme d'un processus de règlement des différends qui risque de s'étaler sur plusieurs mois, voire des années. Dans ce dossier fort médiatisé, Metrolinx reproche à Bombardier d'accumuler les retards, tandis que le constructeur montréalais accuse l'agence, à son tour, de vouloir réduire l'ampleur de sa commande de véhicules légers sur rail en raison de l'abandon de certains projets ferroviaires dans la région de Toronto. Donc voilà cette nouvelle à propos de Bombardier dans la presse sous la plume du journaliste Sylvain Larocque. Sinon, du côté du quotidien Le Devoir sous la plume d'Hélène Buzetti, qui est correspondante parlementaire du journal Le Devoir à Ottawa. Emploi d'été, les libéraux ne financeront plus les groupes pro-vie. Le gouvernement de Justin Trudeau plaide l'erreur et promet de corriger le tir. Il ne sera plus possible qu'un organisme pro-vie reçoive une subvention fédérale pour offrir des emplois d'été à des jeunes. Du moins, pas de la part d'un député fédéral. L'histoire a été mise au jour par le site politique iPolitics. Le groupe opposé à l'avortement Canadian Centre for Bioethical Reform avait reçu en 2016 une somme de $56,695 du programme Emploi d'été Canada pour embaucher des jeunes. La subvention avait été approuvée par la libérale torontoise Ikra Khalid. Pourtant, Justin Trudeau, le premier ministre, avait promis en campagne électorale en 2015 que tous ses députés seraient tenus d'adopter une position pro-choix dans leurs décisions. Le programme Emploi d'été Canada finance des emplois destinés à des personnes âgées de 15 à 30 ans au sein d'organismes sans but lucratif, d'entreprises ou d'institutions gouvernementales. La subvention couvre 100% du salaire minimum dans le cas des organismes à but non lucratif et 50% pour tous les autres organismes et entreprises. Bien que ce soit le ministère Emploi et Développement social qui reçoive les demandes de subvention et en vérifie la conformité, écrit Hélène Buzetti dans cet article, ce sont ultimement les élus qui accordent les fonds. Alors voilà, pour aller plus loin dans ces informations, ça se trouve dans le journal Le Devoir. Hélène Buzetti signe cet article intitulé « Emploi d'été, les libéraux ne financeront plus les groupes pro-vie ». Dans la presse canadienne, Fort McMurray, les pompiers souffrent toujours. Les pompiers qui ont combattu l'énorme brasier de Fort McMurray en Alberta il y a près d'un an souffrent encore physiquement et psychologiquement, affirme une nouvelle étude. Selon les premières conclusions de l'étude réalisée par l'Université de l'Alberta, un pompier sur cinq dit vivre des problèmes respiratoires et un pompier sur six a reçu un diagnostic de dépression ou d'anxiété. Les chercheurs ont analysé les dossiers médicaux de 355 pompiers datant de 6 semaines à 4 mois suivant l'immense feu qui a ravagé la communauté de Fort McMurray en mai 2016. Les participants ont rapporté des problèmes respiratoires, de la toux et des problèmes de santé mentale. L'étude passera maintenant à sa deuxième phase, indique cet article de la presse canadienne, et l'étude portera cette fois sur la santé à long terme des pompiers. La chef adjointe des pompiers du comté de Parkland, Amber Coleman, avait comparé le feu récemment à une zone de guerre. Selon la chef adjointe des pompiers, plusieurs pompiers ont été surpris par l'ampleur de cette catastrophe. Et du côté de la presse canadienne francophone, des erreurs de fait dans le casier judiciaire d'Omar Kader, c'est rapporté par le journaliste Colin Perkel. Le casier judiciaire d'Omar Kader au Canada contient des erreurs de fait qui entrent en contradiction avec la posture adoptée par Ottawa lorsque le jeune homme a été ramené de prison du camp militaire américain de Guantanamo à Cuba. Omar Kader, aujourd'hui âgé de 30 ans, a plaidé coupable en 2010 à Guantanamo de crimes qui auraient été commis en Afghanistan alors qu'il n'avait que 15 ans. Or, dans tout ce casier judiciaire, le casier judiciaire d'Omar Kader, qui a été obtenu par la presse canadienne, on ne fait nulle part mention du fait qu'Omar Kader a été reconnu coupable par une commission militaire américaine spéciale, dont l'existence même avait été condamnée presque unanimement par la communauté internationale. Ce casier judiciaire, qui n'est pas daté, précise seulement que le jeune homme a été reconnu coupable à Guantanamo Bay, au tribunal de la jeunesse, sans référence aucune à la commission militaire spéciale ou même à un quelconque tribunal américain. Les avocats canadiens d'Omar Kader trouvent étrange cette omission, voire erreur de fait, puisqu'il n'y avait pas de tribunal de la jeunesse à Guantanamo. Alors cet article paraît dans le fil de la presse canadienne, des erreurs de fait dans le casier judiciaire d'Omar Kader. Toujours dans le fil de la presse canadienne, Inde, la visite du ministre Sajjan assombrie par une controverse. L'un des politiciens les plus connus de l'Inde a accusé le ministre canadien de la Défense, Arjit Sajjan, d'être un nationaliste sikh. Amarinder Singh, le ministre en chef de la province du Punjab, a exprimé sa colère de s'être vu refuser l'entrée au Canada l'année dernière. Il a ensuite parlé du ministre Arjit Sajjan comme d'un Khalistani, en référence à un mouvement constitué de sikhs qui veut créer un territoire indépendant et qui est devenu célèbre avec les vagues de violence en Inde dans les années 80. Le bureau de Arjit Sajjan, le ministre de la Défense, a refusé de livrer des commentaires à ce sujet. Donc, on peut mentionner que le gouvernement qui est à la tête de l'Inde actuellement, c'est un gouvernement d'extrême droite hindou. Donc, cette attaque contre le ministre Arjit Sajjan provenait d'un élu hindou. On va poursuivre cette revue de presse nationale dans l'émission Le Débrief. Le gouvernement de Brian Pallister au Manitoba ne dévoilera pas le contenu des rapports de la firme KPMG. Le printemps dernier, le premier ministre Brian Pallister au Manitoba avait promis que 97% des résultats de la vérification faite par KPMG seraient rendus publics. Alors, le gouvernement a changé d'avis, c'est ce qu'explique cet article paraissant sur le portail manitobain de Radio-Canada sous le titre « Le gouvernement de Brian Pallister ne dévoilera pas le contenu des rapports de la firme KPMG ». Toujours sur le portail de Radio-Canada, 3 clandestins jugés dangereux pour le public ont été incarcérés au Manitoba. 3 des 135 migrants illégaux interceptés par la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, lors de leur traversée de la frontière canado-américaine près d'Emerson au Manitoba entre le 20 mars et le 16 avril ont été incarcérés parce qu'ils ont été jugés dangereux pour le public, indique l'Agence des services frontaliers du Canada. Des responsables de l'Agence des services frontaliers ne peuvent confirmer si les 3 personnes sont toujours détenues. Une personne peut être considérée comme criminellement inadmissible au statut de réfugié au Canada, mais elle peut être libérée dans le pays sur une promesse de comparaître lors d'une audience de renvoi. Le syndicat des douaniers a soulevé la semaine dernière des inquiétudes au sujet de la sécurité publique, disant qu'au cours des dernières semaines, près de la moitié des demandeurs d'asile à Emerson, au Manitoba, ont présenté de graves antécédents judiciaires. Cette déclaration a été faite à la suite d'un incident survenu le 8 avril entre une agente des services frontaliers et un demandeur d'asile. Radio-Canada, dans son espace autochtone, mentionne sur son portail que la ministre fédérale de la Santé est en tournée actuellement dans le nord de la Saskatchewan. La ministre fédérale de la Santé était de passage mardi dans les Premières Nations Cree d'Attakapoop et de Big River en Saskatchewan pour discuter d'enjeux comme le VIH-Sida et la santé mentale. La ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, a indiqué qu'elle discutera des façons d'aider les communautés autochtones à mieux offrir des services de santé à leur population. Elle compte aussi aborder l'enjeu des maladies infectieuses comme le VIH-Sida et la tuberculose. La Fédération des Nations autochtones souveraines s'est déclarée heureuse d'accueillir la ministre fédérale pour lui faire visiter des établissements de santé. Cette visite, indique Radio-Canada, est l'occasion de mettre en valeur les réussites du personnel soignant de la Première Nation de Big River et des efforts visant à limiter la propagation du VIH. La ministre Philpott a affirmé que les communautés d'Attakapoop et de Big River ont fait un progrès important dans la lutte contre le VIH-Sida. Elle a indiqué que les taux de transmission du virus dans ces Premières Nations, auparavant parmi les plus hauts au pays, sont presque revenus à zéro à la suite d'un programme de dépistage. Et on termine avec une nouvelle qui nous parvient du Québec, une nouvelle qui paraît dans le fil de la presse canadienne. Moins de bébés au Québec en 2016. L'indice synthétique de fécondité a continué de décliner au Québec l'année dernière, selon de nouvelles données de l'Institut de la statistique du Québec, l'ISQ. Cet indice s'est établi à 1,59 enfants par femme en 2016, après avoir légèrement reculé chaque année depuis le sommet de 1,73 enfants enfants par femme qui avait été enregistrée en 2008 et 2009. L'Institut de la statistique du Québec ajoute que malgré la baisse de l'indice au cours des dernières années, la fécondité québécoise n'est pas à un niveau aussi faible que celui qui avait été observé au début des années 2000 et vers le milieu des années 80. Lors de ces deux périodes, l'indice était inférieur à 1,5 enfants par femme. L'analyse de l'Institut montre que la baisse récente de l'indice est liée à une diminution des taux de fécondité chez les femmes âgées de moins de 30 ans. Au-delà de cet âge, on a observé une hausse de la fécondité pendant plusieurs années, mais cette tendance semble graduellement faire place à une quasi-stabilité. Ici se conclut la revue de presse nationale. Le débrief vous revient dans quelques secondes avec votre nouvelle francophone du jour. À tout de suite. Après les revues de presse internationales et nationales, voici votre rubrique francophonie pour les 19 et 20 avril. Cette nouvelle nous parvient de Vancouver. Elle nous est annoncée par le portail britanno-colombien de Radio-Canada. La boussole perd son directeur général. C'est un texte signé par la journaliste Fanny Bédard. Le directeur général de La Boussole, Tanyar Lebas, quittera son poste en juin 2017. Le directeur général de La Boussole quittera son poste après avoir occupé cette fonction pendant 11 ans auprès de cet organisme francophone qui vient en aide aux démunis du Grand Vancouver. Le conseil d'administration en a fait l'annonce mardi dans un communiqué. Monsieur Lebas a complété 12 années, dont 11 comme directeur général, au sein de La Boussole, qui célèbre ses 25 années d'existence cette année, est-il indiqué dans ce communiqué. Cela fait de lui un pilier dans l'histoire de cette organisation. Tanyar Lebas a laissé ses marques dans de nombreux dossiers, dont ceux du domaine social, de l'emploi, du communautaire, de la santé mentale et de l'immigration, est-il également indiqué dans ce communiqué. Le conseil d'administration souligne également le travail de M. Lebas dans les causes juridiques, notamment pour maintenir les services en français, en emploi, et pour les sans-abri francophones. Les efforts du directeur général pour sécuriser de nouveaux locaux pour l'organisme sont également soulignés par les administrateurs de l'organisme. « Nous sommes fiers d'avoir travaillé avec un grand visionnaire à l'esprit rassembleur dévoué à la francophonie britanno-colombienne et à la communauté francophone de la grande région de Vancouver », est-il indiqué. L'organisme précise que le poste pour remplacer M. Lebas sera affiché en avril, donc ce mois-ci. Après 12 ans, il faut tourner la page et passer à un autre chapitre, a commenté le principal intéressé en entrevue avec l'émission Boulevard du Pacifique sur les ondes de Radio-Canada. Tanyar Lebas ajoute qu'il quitte La Boussole avec l'esprit tranquille en sachant que l'organisme se trouve dans une bonne période. En ce moment, a-t-il dit, La Boussole va très bien. Une de mes priorités, c'était de ne jamais quitter La Boussole tant qu'elle allait mal ou qu'elle avait des challenges, a-t-il précisé. Cette année, nous avons renouvelé tous nos fonds, les bailleurs de fonds nous font confiance et ont renouvelé toutes nos subventions. Et c'est vraiment un plus et c'est pour cela que je me suis dit que c'était le moment peut-être pour moi de partir. Tanyar Lebas entend tout de même rester bénévole pour La Boussole aussi longtemps qu'il demeurera à Vancouver. C'était votre nouvelle à thématique francophone pour les 19 et 20 avril dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien. Merci de demeurer à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale.
Le temps n'est plus au regret, il faut me ressaisir. Le vague à l'âme, s'il naviguait, il s'aborderait son navire. Il faut marcher, il y a tant à faire. Il faut rouler, acharner, 100 fois tourner, piner la terre. Il faut tenir, il faut bâtir sur l'inconnu. Sa chemise qu'on gagnera au risque de finir tout nu. Les autres peuvent penser le contraire. Il faut rouler, s'acharner, 100 fois tourner. Il y a tant à faire.
professionnel. Puis je le retrouve tôt ou tard dans le magistral de l'univers. Il faut tisser, il y a tant à faire.
Écoutions à l'instant l'auteur, compositeur, interprète Daniel Bélanger avec une pièce intitulée « Il y a tant à faire ». Alexis Gagnon, en votre compagnie, nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Vous écoutez CILS FM 107,9, c'est l'émission Le Débrief qui se poursuit. Et c'est le moment de passer aux nouvelles de Colombie-Britannique. On entame tout de suite la revue de presse provinciale des 19 et 20 avril avec ce texte d'opinion écrit par Jean-Robert Sansfaçon dans le journal Le Devoir. Ça parle de la crise immobilière qui sévit un peu partout au pays et particulièrement en Colombie-Britannique. Ça s'intitule « Après Vancouver, Toronto ». Le marché immobilier se porte bien, merci, écrit Jean-Robert Sansfaçon dans ce texte. Trop bien même dans certaines régions comme Vancouver et Toronto, où le prix des maisons est entré en zone spéculative, voire explosive. Montréal s'en tire mieux pour le moment, mais la vigilance s'impose. Il était écrit dans le ciel que Toronto subirait les contre-coups des mesures adoptées en août dernier par la Colombie-Britannique pour ralentir la hausse trop rapide des prix des propriétés dans la grande région de Vancouver. Depuis l'automne, les non-résidents en Colombie-Britannique, surtout chinois, se voient imposer une taxe de 15% à l'achat d'une propriété. En conséquence, on a observé un certain ralentissement des ventes de maisons unifamiliales, mais le mouvement s'est déplacé vers Toronto, où le prix moyen des maisons individuelles a grimpé de 33% en mars par rapport au même mois de 2016. Et ce prix des maisons individuelles dépasse désormais 1,2 million de dollars, écrit Jean-Robert Sansfaçon dans ce texte. Alors qu'il y a 6 mois, poursuit-il, le gouvernement ontarien se contentait de dire qu'il suivait la situation de près, le voilà maintenant prêt à agir pour neutraliser les spéculateurs que le maire de Toronto, John Tory, a comparé aux revendeurs de tickets à l'entrée des stades, les scalpers. Le problème est sérieux et n'affecte pas seulement les gens de Vancouver et de Toronto. Parvenu à un tel degré spéculatif, un marché aussi important que l'immobilier, qui représente 10% du PIB canadien, présente un risque pour l'économie. Depuis bientôt 10 ans, les économistes tentent de se faire rassurants en parlant d'un atterrissage en douceur. Mais cela ne s'est pas produit à Vancouver ni à Toronto. Le pire, c'est qu'on manque de données solides pour déterminer toutes les causes de cette crise, indique Jean-Robert Sansfaçon dans ce texte. Or, sans un ralentissement urgent, il y aura éclatement de la bulle spéculative un jour ou l'autre et des dizaines de milliers de ménages se retrouveront avec des hypothèques plus élevées que la valeur de leur propriété. Et pas qu'à Vancouver et Toronto, foyer d'incendie initial, mais partout au Canada. C'est pourquoi cette rencontre mardi entre les ministres des Finances fédérales, Bill Morneau, son homologue ontarien, Charles Souza, et le maire de Toronto étaient tant attendus. Aucune mesure spécifique n'a été annoncée toutefois, mais il faut s'attendre, comme pour Vancouver, à l'imposition d'une taxe pour freiner l'ardeur des spéculateurs étrangers lors de la présentation du budget ontarien la semaine prochaine et d'une autre taxe sur les logements vacants par ailleurs. Certains observateurs ont aussi proposé qu'Ottawa impose plus lourdement les gains en capital réalisés lors de la revente rapide d'une propriété récemment acquise. Mais cette réglementation ne semble pas intéresser Ottawa pour le moment, écrit Jean-Robert Sansfaçon, qui poursuit son texte sur quelques autres paragraphes. Je vous encourage à aller plus loin dans ce texte. Après Vancouver, Toronto, c'est le texte que signe Jean-Robert Sansfaçon dans le journal Le Devoir. On reste dans la revue de presse provinciale et c'est pour parler des élections. Les Verts et le NPD veulent faire barrage au site C. C'est la manchette qui paraît sur le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique. Au huitième jour des élections provinciales de Colombie-Britannique, la santé, l'économie sociale, mais surtout le barrage du site C ont été au cœur de l'ordre du jour des partis politiques. De passage dans le nord de la Colombie-Britannique, Christy Clark, la première ministre, a réitéré mardi l'importance du projet de barrage du site C. Approuvé en décembre 2014, l'ouvrage situé à l'est de Fort St. John est en construction actuellement. Le projet est dans la mire du nouveau Parti démocratique et du Parti vert. En entrevue à l'émission matinale CBC The Early Edition, mardi, le chef du Parti vert, Andrew Weaver, a promis de mettre fin à ce projet qui, dit-il, n'est pas nécessaire dans le contexte actuel. Or, la première ministre sortante, Christy Clark, et le chef du Parti libéral croit qu'il s'agit d'un projet nécessaire pour l'économie de la province. Nous avons besoin d'énergie propre, abordable et le seul moyen d'atteindre cet objectif, déclare la première ministre, est à travers le projet du site C. De passage au centre de formation du Syndicat international des ingénieurs de Maple Ridge, John Horgan, le leader du NPD, a dû défendre son intention de faire réévaluer le projet de barrage site C devant la Commission des services publics de Colombie-Britannique. « Quand je pense au site C », a déclaré le chef néo-démocrate, « je pense à tous les travailleurs qui viennent d'ailleurs pour ces emplois. Ce ne sont pas des Britanno-Colombiens. Les ingénieurs d'exploitation ont été mis à l'écart de ce projet en raison de choix faits par le Parti libéral de Christy Clark. » Vous trouverez cet article dans le portail Britanno-Colombien de Radio-Canada. Élections provinciales, les Verts et le NPD veulent faire barrage au site C. Pour rester dans le dossier du site C, le barrage de BC Hydro qui est actuellement en construction, une nouvelle aperçue pour vous dans le portail anglophone de Radio-Canada, le portail de CBC, indique qu'une nouvelle étude de l'Université de Colombie-Britannique, UBC, indique que le projet n'apporte pas les avantages et les retombées qui étaient espérées à l'origine. Le rapport s'intitule « Report on Water Governance ». Il a été rendu public cette semaine et recommande que le projet du site C soit suspendu, donc mis sur la glace et révisé par la Commission des services électriques de Colombie-Britannique, la BC Utilities Commission. Alors, vous trouverez cette nouvelle sur le portail de CBC sous le titre « Site C Dam Project has become uneconomic and should be suspended ». Voilà, donc c'est un rapport produit à l'Université de Colombie-Britannique. Dans le portail de Radio-Canada, fraude à l'immigration, 3 femmes condamnées à 18 mois de prison, de faux passeports et faux tampons saisis par l'Agence des services frontaliers du Canada. 3 femmes impliquées dans des activités illégales de consultation en matière d'immigration au Canada ont reçu des peines d'emprisonnement de 18 mois et des amendes sévères en Colombie-Britannique. Jin Fanny Ma, Ming Kun Maki Wu et Wen Vivian Jiang ont été condamnées mardi à Vancouver en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, de la loi de l'impôt sur le revenu et du code criminel. Les 3 femmes étaient accusées d'avoir joué un rôle dans une importante fraude en matière d'immigration. Les anciennes consultante en immigration, ont précédemment plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation, notamment la représentation non autorisée en matière d'immigration, des infractions liées au passeport, ainsi que de fausses présentations, de la contrefaçon et de l'évasion fiscale. La section des enquêtes criminelles de l'Agence des services frontaliers du Canada et l'Agence du revenu du Canada ont annoncé dans un communiqué que chacune des trois accusées purgera sa peine dans une prison provinciale de la Colombie-Britannique. L'amende imposée à Mme Ma est de 96 000 $, celle qui a été imposée à Mme Wu est de 50 000 $ et celle qu'a reçue Mme Jiang est de 74 000 $. Ces condamnations découlent d'une longue enquête sur les activités de New Can Consultants, deux entreprises sans permis offrant des services de consultation en immigration dans la grande région de Vancouver, a souligné l'Agence des services frontaliers du Canada dans un communiqué. Il s'agit, a déclaré l'agence, de la plus importante enquête sur un cas de fraude en matière d'immigration en Colombie-Britannique. De 2006 à 2013, plus de 1600 clients de New Can ont versé environ 10 millions de dollars en échange de services frauduleux. Et maintenant, dans le portail de Victoria News, vicnews.com, plus localement, dans la région de Victoria, on nous fait part d'un incendie qui s'est déclaré à Victoria cette semaine dans un complexe d'appartements, un immeuble à appartements. C'était sur la rue Caledonia, l'avenue Caledonia plutôt. Le feu s'est déclaré dans cet immeuble à appartements. 7 adultes et 2 enfants ont été évacués et ont pu échapper aux flammes. Les pompiers ont été appelés en début de soirée. Ça s'est passé lundi soir et les équipes de pompiers ont pu maîtriser les flammes. Les dommages sont évalués à environ 150 000 $. Retour sur le portail de Radio-Canada pour cette nouvelle sportive, puisqu'on est en période de série éliminatoire dans la LNH. Série éliminatoire, les joueurs autochtones en quête de la Coupe Stanley. C'est le titre de cet article paraissant sur le portail de Radio-Canada. Les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey ont commencé la semaine dernière et 7 joueurs autochtones tentent de remporter la Coupe Stanley pour leurs équipes respectives. Et vous allez le voir, il y a un de ces joueurs qui est de Colombie-Britannique. Il s'agit bien sûr de Carey Price. Alors, on a droit à un petit portrait biographique de Carey Price. Peut-être saviez-vous qu'il était d'origine autochtone. Pas tout le monde le sait. Il est né en 1987 à Anaheim Lake, une petite communauté autochtone isolée de la Colombie-Britannique, indique cet article de Radio-Canada. Carey Price est membre de la bande Dulcacho et a aussi un héritage Nuksak et Southern Carrié. Il vient d'une lignée de chefs et de dirigeants autochtones. Sa mère, Linda, a d'ailleurs été la première femme élue au conseil d'administration de l'Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique. Dès l'âge de 2 ans, Carey Price a appris à patiner sur une rivière proche de chez lui, car il n'y avait pas d'aréna intérieure ni de programme de hockey à Anaheim Lake. À l'âge de 9 ans, il a commencé à jouer au hockey mineur en se rendant à 640 km de chez lui 3 fois par semaine pour se rendre à l'aréna le plus proche, celui de Williams Lake. Donc un parcours très intéressant que celui du Britanno-Colombien Carey Price, qui garde le filet des Canadiens de Montréal en cette période de série éliminatoire. Voilà qui va conclure le petit tour d'horizon des nouvelles provinciales dans l'émission Le Débrief. Vous êtes en compagnie d'Alexis Gagnon. Merci d'écouter Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. Nous effectuons une courte pause.
Jeudi passé, encore la même histoire. Sais-je t'ai promis quand je réservais un soir. Y'a beaucoup de route à faire. C'est pas comme l'année dernière. Je t'ai dit que mon cœur resterait avec le tien.
Pour retour, une entrevue plus avec Gisèle Sanson, pionnière de CBLS FM 107,9 et membre active de l'Association historique francophone de Victoria. Merci à l'écoute. Vous écoutez l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. C'est le moment de l'interview du jour. J'accueille en studio une pionnière de CILS, Gisèle Sanson, qui vient nous parler de l'Assemblée générale de l'Association historique francophone de Victoria qui se tient dans quelques jours, le 22 avril. Bonjour Gisèle.
Bonjour Alexis.
Alors, qu'est-ce qui figure à l'ordre du jour de cette Assemblée générale de l'Association historique francophone de Victoria le samedi 22 avril?
Alors, quand les administrateurs d'une association comme ça se rencontrent, ils ont déjà un ordre du jour fixé.
Oui.
C'est selon les règlements.
Oui.
Alors, c'est quelque chose d'assez traditionnel. On passe comme la parole à la présidence. Bon, d'abord, il faut un président d'assemblée. Faut l'avoir trouvé, cette personne-là, qui va diriger. Ensuite, faut approuver cet ordre du jour qu'on a. Alors, c'est un rituel. Tu sais, on passe à travers ça. Et chacun des membres qui sont sur le conseil à ce moment ici de l'année, qui ont terminé, fait un compte rendu. Donc,
oui.
J'aurai un compte rendu à faire, évidemment, à un ordre précis qui sera le rapport de la responsable des archives.
Alors, en deux mots, que dira le rapport de la responsable des archives?
Elle tentera d'expliquer ce qui s'est passé dans les archives, parce que les archives sont situées à la paroisse Saint-Jean-Baptiste, dans
oui.
un local précis. Et est-ce qu'on a fait avancer tout ce département des archives? Je ne sais pas trop. Parce qu'on a été occupé aussi dans ce domaine de l'archivage à rénover et à présenter à nouveau un feuillet touristique, une visite, par exemple, pour ceux qui arrivent ici, une visite autoguidée avec un grand dépliant accordéon avec plusieurs panneaux qui signifie le travail qui a été fait, ce qui a été marqué comme des faits français ici à Victoria. Et ça, c'est évident que pour la présidente et moi, le dévoilement du feuillet touristique est très important cette année. Alors, je ne l'ai pas encore en main. Je dois aller le chercher vendredi, puisque nous en aurons besoin samedi. Alors, espérons que tout est correct.
C'est une version revue et améliorée du feuillet qu'on connaissait?
Oui, oui. Et on a ajouté un peu plus dans l'est de Victoria, puis un peu plus dans l'ouest de Victoria. On a essayé d'ajouter à cet accordéon un ou deux panneaux de plus.
Alors, on a dans ce feuillet vraiment un portrait historique du fait français à Victoria.
C'est ça, oui. Ça s'appelle « Sur les traces de nos ancêtres ». Et ça, pour nous, c'est une mission d'éducation, de transmission.
Oui.
Alors, évidemment, on va beaucoup l'expliquer là dans les mois qui viennent, comme au Festival de la francophonie. Donc, les gens qui sont sur le conseil d'administration vont être chargés de s'installer pour que ce pamphlet-là, ou feuillet, ou ça brochure, ça dépend, dépliant, qui puisse jouer son rôle comme il le doit. Alors, on va faire tout ce qu'on peut pour l'expliquer et que les gens deviennent des multiplicateurs de cette transmission historique-là.
Est-ce qu'on va en trouver des copies ici sur la rue Langley, au bureau de la Société francophone de Victoria?
Oui, on devrait en avoir 5 000 copies.
Ah oui.
Alors, on veut vraiment avoir des points de distribution et là, on va faire appel aux gens qui sont volontaires pour avoir une idée où on les distribue. Et puis, que ce soit dans des bed and breakfast, que ce soit surtout au centre d'information touristique, si on peut faire une entente. Alors, on verra bien. Mais ça, c'est important. Et la deuxième chose qui est importante cette année, c'est on a eu des argents qui viennent de Emploi et Développement social Canada.
D'accord.
Et on a travaillé fort pour faire ce projet-là. Ça s'adresse aux 55 ans et plus. Et on veut bien connaître tous ces gens qui ont 55 ans et plus, qui font partie de notre association ou de notre société francophone de Victoria. Parce que souvent, on est toujours entre nous, les mêmes personnes qu'on connaît à peu près. Mais il faut aller chercher, découvrir les gens,
les amener.
Oui. Alors, nous allons travailler un projet qui s'appelle « Souvenance, reconnaissance ». Et « Souvenance », c'est qu'il va y avoir des ateliers. Et les ateliers vont permettre aux gens de se souvenir des choses du passé depuis qu'ils sont ici.
Oui.
Et ils vont ramener ça dans le présent, ils vont échanger là-dessus et ça devra passer à l'étape reconnaissance dans le sens qu'est-ce qu'on fait pour ressouligner ces faits-là et qu'on trouve dans nos feuillets, dans notre feuillet touristique aussi. Alors, on veut vraiment faire bouillir le plat du passé qui est bon à respirer au présent aussi.
Comme du bon pain.
Absolument.
Alors, vous allez au-devant des membres de la communauté francophone qui ne vous connaîtraient pas encore ou qui n'auraient pas eu la chance d'échanger là, plus de quelques minutes avec vous. Donc, approfondir les contacts, en réaliser de nouveaux contacts aussi.
Oui, oui. Formidable. Ça va être, c'est un grand défi.
Et c'est un défi qui s'échelonne sur combien de mois? Vous avez cette subvention seulement pour l'été qui s'annonce ou pour l'année entière?
C'est jusqu'en mars 2018, mais nous l'avons divisé par trimestre. Alors, à l'été, on va se reposer nous aussi.
Oui.
Et on va reprendre en septembre. Alors, dans la vitrine communautaire hein, de notre Ça, c'est un outil archivistique, le réverbère. Tout ce qui est dedans, on le garde.
Oui,
c'est,
oui, oui.
C'est le format papier, c'est le meilleur pour conserver tout ce qui s'est passé. Alors, dans le réverbère, justement, d'avril, tout le monde a lu la vitrine communautaire.
Oui, 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 bien sûr.
2017, année de l'histoire. Alors, le conseil d'administration se demandait, on devrait avoir une devise ou un, comment qu'on appelle ça, là, un slogan où on y a bien des mots pour dire ce genre de petites phrases-là qu'on cherche. Et la phrase est arrivée et c'est l'AHFV, est l'encre ANCRE des actions historiques et les tomes 1 et 2 sont l'encre ANCRE de la souvenance. Et c'est Jacques Vallée qui a sorti cette phrase-là. Alors, oui, parce qu'on joue avec le mot « encre ».
Oui.
Et on joue avec des actions historiques qu'on a accrochées à quelque part. Et puis, tout ce qui est écrit maintenant est ce livre qui va sortir à la fin de l'année, à peu près fin novembre, tome 2.
Tome 2.
Présence francophone à Victoria, 1987 à 2017.
À la demande générale.
Ben là, on pense.
Oui.
Comme le feuillet touristique a été à la demande du public.
Oui, oui, oui.
Alors, il faut écouter la communauté.
Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce volume, Présence francophone à Victoria, volume 1, ce volume 1 avait paru au début des années 2000, je crois. Est-ce que c'est à peu près exact?
En 1987.
87, oui, c'est
oui,
ça.
Et il avait été traduit en anglais en 1991. Oui.
Et ce volume-là couvrait la période du milieu du 19e siècle jusqu'à 1987, à peu près.
Oui, 1843.
Oui.
Et ça arrivait jusqu'à 1987.
Et là, l'ambition des auteurs, c'était de couvrir les 30 dernières années.
Il fallait le faire maintenant ou on ne le verra peut-être plus jamais après. Alors, il fallait prendre un 30 ans. Ça se prend bien, un 30 ans. Et là, c'est historique dans le sens de l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé à nos associations comme histoire depuis 1987? Il y en a qui ont fermé, il y en a qui se sont ajoutés. Mm-hmm. L'immigration est arrivée, a transformé le portrait. Mm-hmm. On n'est plus sur le perron de l'Église.
On est
un peu partout dans la communauté. La laïcisation est arrivée. Alors, il y a plein de choses là-dedans. Et il y a des associations qui ont vécu sur le bénévolat tout le temps. Ils ne sont pas tombés. C'est le cas de l'association historique, ça vit sur le bénévolat.
Ouais.
Et je ne pense que ça ne pourra plus aller seulement sur le bénévolat maintenant. Il faudra passer par la même étape que les autres ont passé pour avoir une permanence. Sinon, je ne pense pas qu'elle va traverser un autre 30 ans. Alors, la relève est difficile aussi.
Oui, il faut la trouver, il faut la motiver.
Mm-hmm.
Et quand pourra-t-on feuilleter le volume 2 de Présence francophone à Victoria?
Alors, c'est fin novembre. Le maître d'œuvre, qui est Jacques Vallée, nous dit que fin novembre, on devrait l'avoir dans ce temps-là et décembre pour quoi? L'offrir en cadeau aux gens qui passeront le jour de l'an ou quoi, ouais.
Et c'est un ouvrage qui fera à peu près combien de pages? Est-ce qu'on peut déjà pronostiquer à peu près
Oui, c'est toujours dans le 250-300 pages, j'imagine. Oui. Parce qu'on est une trentaine à avoir écrit. Et la partie française et la partie anglaise se mènent en même temps.
D'accord.
Alors donc, quand on va se rencontrer samedi, on va d'abord donner tout ce qu'il faut comme énergie pour le feuillet touristique.
Oui.
On va parler du projet actuel qui est d'aller chercher des gens pour nous aider à continuer tout ce qu'on veut mener en fait d'histoire. Et on reconnaîtra à la fin de l'année que plein de monde se sont assis pour écrire une partie importante de notre histoire à leur façon. Ce n'est pas un livre comme les autres. C'est un livre qui va servir, évidemment, pour ceux qui cherchent l'histoire francophone, mais ils vont trouver le développement des associations dans notre Grand Victoria. Oui,
d'accord.
C'est bon.
Alors, un ordre du jour quand même bien garni pour cette AGA du 22 avril, samedi 22 avril,
oui.
AGA de l'Association historique francophone de Victoria. Gisèle Sanson, oui. Encore un mot sur cette rencontre. Est-ce que...
Oui, ben il va y avoir des postes d'officiers là, qui vont être remplis, là, tu sais, parce qu'on applique les nouveaux règlements et statuts de l'association.
Oui.
Alors donc, la présidente reste en place pour une autre année.
Est-ce qu'on peut la nommer?
Oui, c'est Jocelyne Fontaine, très précieuse pour que ça fonctionne. Et là, il va y avoir vice-président à trouver ou vice-présidente. Et il faudra trouver trésorier, trésorière. Et il y a des conseillers qui restent et d'autres qui se retirent. Donc, il faut trouver 4 ou 5 personnes de plus là, qui veulent s'impliquer.
Donc, si on fait partie... de la société civile, on s'intéresse à l'histoire un petit peu. Est-ce qu'on peut se présenter à l'AGA sans invitation? Et puis,
c'est sûr. Même en place, quand un poste n'est pas complet, on dit, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui sont intéressés? Oui.
D'accord.
Oui.
Alors, ce serait peut-être pertinent de donner l'adresse et l'heure de la réunion du 22 avril?
Oui, ben ça a lieu là à la paroisse, la salle paroissiale. C'est sur la rue Richemont, entre Fairfield et Liliane. Et c'est au 309-311. Là, vous allez voir la petite église et la salle paroissiale va avoir les portes ouvertes. Donc, bienvenue et vous pouvez arriver vers 1h30 parce qu'il va y avoir déjà beaucoup de mouvements à l'intérieur et nous donner un coup de main peut-être pour les chaises ici oui. et là, hein, parce qu'on a besoin de...
Oui, ça donne une indication sur l'engagement des gens. Quand ils donnent un bon coup de main,
mais oui.
c'est des bons membres en perspective.
Bien sûr.
Gisèle Sanson, un grand merci pour ces infos entourant l'AGA de l'Association historique francophone de Victoria qui se réunit le 22 avril.
Oui, à 2h, on commence.
Merci Gisèle, à bientôt.
Merci pour ton invitation.
CILSFM, la voix de votre commune.
Ici Roseanne Harvey, vous écoutez CILSFM 107,9, la voix de votre communauté.
Allô la planète avec Éric Lange.
Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Allô la planète. Tiens, je peux vous dire d'ailleurs, je le dis jamais, je sais pas pourquoi, c'est le numéro 124. Voilà. Bon, ça se fait, paraît-il. Bienvenue donc dans le 124e numéro de la 10e saison, ou 11e, je sais plus, d'Allô la planète. Désormais, en exclusivité sur le blog de Chapka Assurance, bienvenue tout le monde. Pour nous joindre et participer à cette émission, où que vous soyez dans le monde, vous nous laissez un message sur la page Facebook d'Allô la planète ou sur le blog. Normalement, si tout va bien, on sera Caroline, qui est blogueuse.